Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Dans ce club de la presse numérique, ce soir 13 janvier, nous parlons des conséquences des cyberattaques en termes, alors sujet un peu inattendu et spécifique et pourtant d'actualité, en termes d'assurance. On est avec Emmanuel Paquet de L'Express et Amaël Guiton de Libération. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et donc Jean-Louis Gergourin qui est resté avec nous. Au cours de l'été 2017, nombreuses entreprises ont été affectées par une cyberattaque importante du nom de NotPetya. C'est son nom, NotPetya. Parmi les entreprises touchés, beaucoup l'été d'ailleurs, par cette attaque, on trouve une entreprise baptisée Mondelez, entreprise qui possède entre autres...
Mondelez,
qui possède entre autres, ça on les connaît mieux, des marques comme Lu, Toblerone ou encore les chocolats Milka. Mmh. Suite à cette attaque, Mondelez aurait perdu 1700 serveurs et 24 000 ordinateurs et aujourd'hui, l'entreprise réclame 100 millions de dollars d'indemnisation à son assureur, baptisé Zurich, lequel Zurich refuse d'indemniser cette cyberattaque. C'est le débat, c'est le débat de ce soir et le début d'ailleurs d'une bataille juridique qui vient de commencer et qui vise à déterminer comment les entreprises vont pouvoir se faire dédommager des pertes liées au cyberattaque. Attaque. On commence avec vous, Amaël Guiton. Vous tenez avec votre collègue Wargames, avec un de vos collègues Wargames, c'est une chronique de Libération consacrée à l'art de la guerre, au jeu de pouvoir dans le cyberespace. Qu'est-ce que l'attaque NotPetya?
Alors effectivement, c'est un logiciel malveillant dont on a cru au départ que c'était un rançongiciel.
On croyait que c'était Petya, et en fait c'était pas Petya, d'où son nom, NotPetya.
On croyait que c'était un logiciel qui chiffrait les données, qui les rendait inaccessibles pour exiger une rançon, ce qui est un classique, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Sauf que les chercheurs en cybersécurité qui ont travaillé dessus ont compris assez vite que ça pouvait être plutôt un déguisement. Parce que ça avait plutôt l'air de saboter complètement les ordinateurs que de les bloquer simplement. Et la deuxième chose qu'ils ont observée assez vite, dans mes souvenirs, c'était le 27 juin, plutôt dans la matinée. Dès la soirée, il commençait à y avoir des indices que le patient zéro, c'était l'Ukraine. Parce que, notamment, le vecteur utilisé, c'était une mise à jour malveillante, contrefaite par les attaquants, d'un logiciel de comptabilité utilisé massivement et exclusivement en Ukraine. Donc effectivement, on a compris assez vite qu'on n'avait pas exactement affaire à une cyberattaque à motif crapuleux. Les soupçons se sont, on va dire, assez vite orientés vers la Russie pour effectivement des raisons de
géopolitique,
de victimologie tout simplement. Au début de l'année dernière, me semble-t-il, il y a même eu des accusations là pour le coup très officielles de la part de trois pays, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, qui ont attribué, pour le coup, de manière officielle, NotPetya à la Russie. La question que pose le cas dont on parle, là, celui de Mondelez, est assez intéressante, parce que si, effectivement, c'est bien l'Ukraine qui était ciblée, il y a quand même eu des dommages collatéraux, tout simplement parce qu'il y a des entreprises qui commercent avec des entreprises ukrainiennes, et qu'il peut y avoir des parties de réseau communes, etc. Et donc, le truc a quand même un peu percolé ailleurs. Saint-Gobain, en France, en a été victime. Ça leur a coûté effectivement très cher d'ailleurs. Il y a eu un transporteur maritime au Danemark aussi qui s'est retrouvé en carafe. Donc là, on est dans des...
En carafe, c'est le cas de dire pour un transporteur maritime.
On est vraiment dans des dommages collatéraux. Et la vraie question que ça pose, c'est celle d'un assureur qui dit... alors, qui en plus a changé d'avis, parce que si j'ai bien lu ce que disait notamment le Financial Times, ils ont d'abord dit on va pas indemniser, puis ils ont dit d'accord, mais à hauteur de 10 millions de dollars seulement, et puis ils ont encore une fois changé leur fusil d'épaule. Et du coup, c'est pour ça que Mondelez va en justice. Ce qui est intéressant, c'est que si l'attaque a été attribuée, pour autant, elle n'a jamais été définie de manière officielle comme un acte de guerre. Donc ça pose vraiment la question de qu'est-ce que l'assureur lui-même peut faire pour étayer ce qu'il est en train de... Enfin, l'argument qu'il a lui-même poussé, ça semble quand même assez prodigieusement compliqué.
Alors Emmanuel Paquet, sur cette question, pourquoi Mondelez estime légitime d'être indemnisé par son assureur? Pourquoi l'assureur, lui, refuse cette indemnisation? Et dans le cas où l'assureur refuse d'indemniser, quelles sont les clauses et qu'est-ce qu'il doit prouver ou ne pas prouver et au fond, ça pose la question de qui est à l'origine de NotPetya.
Alors, il faut savoir que l'assurance en matière de cyber est un élément relativement nouveau. Peu de sociétés aujourd'hui contractent en fait une assurance cyber en cas de défaillances de leur système interne, par exemple, ou même de problèmes éventuellement de réputation, puisque ça peut être couvert par une assurance, en cas, par exemple, de vol de données informatiques sensibles au sein d'une entreprise. Donc, c'est un marché aujourd'hui qui est à peu près autour de, estimé à 4,5 milliards de dollars, et qui pourrait atteindre 17,5 milliards de dollars d'ici à 2023, avec des taux de croissance de 25% par an, parce qu'on voit que de plus en plus, un, les entreprises sont sensibilisées sur cette question, et deux, puisqu'on a vu des vagues d'attaques informatiques récentes, excusez-moi, qui font que justement les entreprises ont été victimes collatérales de temps en temps de conflits entre États, si tant est qu'on puisse dire que ce sont des conflits entre États, et en plus de virus informatiques ou de rançongiciels qui ont débordé très largement la cible initiale qui leur était assignée. Dans le cas par exemple de NotPetya, il se trouve que des entreprises russes aussi ont été touchées. Donc on voit aujourd'hui que le facteur de malware informatique, une fois qu'il est dans la nature, il se répand à peu près où il veut, il devient totalement incontrôlable, y compris par le créateur de ce malware. Dans le cas de Mondelez, dont on parlait récemment, donc effectivement, l'attaque a touché énormément de serveurs de l'entreprise, énormément d'ordinateurs, et ils demandent une compensation à leur assurance, assurance qu'ils avaient contractée auprès de Zurich. Et à Zurich, Zurich, de son côté, estime qu'ils n'ont pas à rembourser, puisque effectivement, cette attaque informatique est considérée, selon l'assureur, comme un acte de guerre.
Donc ça veut dire que c'est une zone grise juridique, là.
C'est une zone grise juridique, et il faut effectivement, comme le disait Amel, prouver que c'est un acte de guerre. Alors effectivement, même si des pays le disent, en soi, c'est pas nécessairement une preuve. Donc on va voir ce qui va être intéressant devant la Cour de justice de l'Illinois. On va pouvoir voir les arguments mis en place et avancés par l'assureur, sachant qu'aussi, normalement, les assureurs, en cas de risque cyber, ont généralement une obligation de financer ce qu'on appelle le forensic, donc c'est-à-dire une investigation, une enquête, pour savoir où est arrivée l'attaque, comment elle s'est répandue au sein d'une entreprise, s'il y a pu avoir des facteurs de négligence interne ou externe. Donc tout ça, en fait, l'assurance doit le payer pour justement établir d'où vient l'attaque et comment elle s'est répandue.
Oui, ça pose des questions assez fascinantes parce qu'en fait, ça pose deux types de questions, je dirais. Le premier, c'est la question de l'attribution, hein, qui est un truc très très compliqué, parce que il y a effectivement toujours des faisceaux d'indices. En revanche, quand un État décide d'attribuer une cyberattaque à un autre État, ça c'est quand même extrêmement politique. Et d'ailleurs, il peut rarement, en réalité, le prouver noir sur blanc, parce que ça voudrait dire aussi déclassifier des preuves qui, en général, ne sont évidemment par définition pas publiques. Il faut savoir aussi qu'il y a des tas de cyberattaques qui ne sont pas forcément attribuées officiellement ou qui le sont des années plus tard. Donc on est toujours de toute façon dans un moment de rapport de force et dans un moment de rapport de force géopolitique extrêmement tendu. Ces deux, trois dernières années, ça s'est d'ailleurs énormément joué avec la Russie. On voit revenir la Chine aussi sur ce terrain-là ces derniers mois. Et on voit bien qu'à chaque fois, les attributions de cyberattaques publiques s'inscrivent vraiment dans des grandes tendances géopolitiques. Ça, c'est effectivement le premier objet. C'est-à-dire que qui est capable de prouver que tel ou tel pays est à l'origine d'une cyberattaque ? Probablement pas un assureur. Et donc, effectivement, ça va poser la question de l'accès éventuel à des preuves. Et puis, l'autre question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un acte de guerre ? Et de guerre dans le cyberespace. Et y compris, c'est une question que se pose la plupart des pays. Et on voit bien ces dernières années la manière dont les doctrines des différents États s'affinent, s'élaborent, etc. Parce que, en plus, Mondelez est un très bon exemple. Quand c'est un acte de sabotage sur ce qu'on appelle une infrastructure d'importance vitale, c'est-à-dire une infrastructure critique.
Mais là, c'est des chocolats, Toblerone.
Voilà, que ce soit, l'énergie, les transports, etc.
Pour ne pas citer de marque ce soir.
Il y a des choses qui peuvent paraître évidentes, une attaque contre effectivement, une compagnie ferroviaire par exemple, ou des installations nucléaires. Ça paraîtrait extrêmement clair. Là, on voit bien qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus flou. La question pourrait se poser, mais y compris, elle s'est d'ailleurs posée en Ukraine, d'une paralysie, y compris, mettons, une paralysie de plein de structures, y compris des structures privées, et y compris des structures qui ne sont pas forcément critiques, mais si ça atteint, on va dire, une masse critique. Là, effectivement, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais on voit bien de toute façon que quand on parle de cyberespace, on est dans quelque chose d'assez gazeux en réalité, où la frontière entre la guerre et la paix est quand même pas pas extrêmement clair. Je sais qu'à l'époque de NotPetya, j'étais partie en Ukraine justement, et j'avais parlé de guerre de basse intensité, parce que je ne voyais en fait pas d'autres termes pour définir ce qui était en train de se passer. C'est vrai que pour le coup, ça échappe à la fois intellectuellement, on a peut-être encore du mal à élaborer tout ça. Et puis alors pour le coup, mais c'était ce que vous disiez il y a encore quelques minutes, en termes de cadre normatif et notamment de cadre normatif international, alors là, on est encore assez dans les choux.
Emmanuel Paquette, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les contrats d'assurance entre les assureurs et les entreprises évoluent vers des définitions plus précises en ce domaine ?
Alors, il faut savoir qu'il y a déjà eu un précédent. Il y a eu l'affaire Sony Pictures aux États-Unis. Vous savez, vous vous souvenez, hein, l'attaque contre les studios de cinéma Sony aux États-Unis avait été à l'époque attribuée à la Corée du Nord, à tort ou à raison. Mais il se trouve que l'assureur en question, donc Marsh, avait bien donné 60 millions de dollars à Sony Pictures, qui là pour le coup était ciblé. Donc là on n'est pas sur du rançon logiciel qui s'est un peu répandu un peu partout sur la planète sans contrôle, donc on peut pas qualifier comme un acte de guerre puisque il y a pas de cible désignée mais une cible par rebond entre guillemets, alors que là Sony Pictures était vraiment ciblé. Et pourtant, l'assureur a payé. Donc, on voit bien que là, dans ce cas-là, l'acte de guerre ou pas, puisque là, pour le coup, Obama, en direct, avait pris la parole pour protéger Sony Pictures et pour mettre en cause la Corée du Nord. Donc là aussi, il y avait bien eu, en tout cas, une attribution politique, à défaut d'une attribution juridique. Parce qu'il faut savoir aussi, et c'est là où on risque d'avoir un deuxième élément concernant Zurich qui va poser problème, c'est que généralement quand preuve il y a, ce sont des preuves qui ne sont pas des preuves juridiques, mais des preuves de renseignement, donc qui ont été, c'est des preuves qui ne sont pas valables devant un juge, puisqu'elles sont hors cadre légaux, puisque c'est des services de renseignement qui ont le droit de faire à peu près ce qu'ils veulent pour capter ces preuves-là, et donc un assureur ne pourra pas avoir accès à ces preuves-là, et même s'il y avait accès, elle ne serait pas recevable devant un juge. Donc, je ne suis pas juriste, mais pour le peu que je vois aujourd'hui, la position de Zurich est difficilement tenable.
Zoé.
Mais juste, si on fait on regarde dans 10 ans, vous l'avez dit, les attributions sont souvent politiques. Il y a certains États qui savent très bien d'où viennent des attaques, mais ne veulent pas en donner des attributions publiquement, parce qu'évidemment, ça rentre dans un rapport de France. Jean-Louis Girgorin, vous êtes toujours avec nous. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, des acteurs privés, eh bien, décident eux d'attribuer des attaques pour des raisons économiques majeures? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Comment est-ce que vous lisez ça, justement? Au détriment parfois d'une politique d'un État.
Tout à l'heure, nous évoquions le fait que la hiérarchie des puissances est modifiée par le numérique, parce que des puissances moyennes, voire même des acteurs privés ou des groupes terroristes, par exemple, peuvent avoir accès à des moyens offensifs. Il y a quand même quelque chose qui fait la différence, c'est l'attribution. Et actuellement, alors c'est insu, il y a au moins 2 puissances qui disent officiellement presque pour les Américains, officieusement pour les Russes, qu'ils ont la capacité d'attribution avec une très très forte probabilité. Et mon sentiment, le sentiment de mon co-auteur dans notre analyse, c'est que c'est vrai. Le troisième ne dit rien, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas, la Chine. Et je pense que c'est ça qui est la différence. Mais ces capacités ne peuvent pas être utilisées. Alors, qu'est-ce qui est à craindre ? Ce qui est à craindre, un des grands dangers actuellement, c'est que ne pouvant pas être indemnisés, les acteurs privés réagissent face à leur propre riposte, établissent leur propre rapport de force. C'est quelque chose dont on parle beaucoup aux États-Unis, c'est le hackback, la contre-intrusion informatique. Et vous savez que nos amis américains sont très attachés au deuxième amendement. Chacun a le droit d'avoir son arme à feu pour se protéger, etc.
Donc on va hacker les hackers.
Et c'est hacker les hackers, c'est l'extension au numérique du deuxième amendement.
Merci infiniment à tous les 3, tous les 4 ce soir. Emmanuel Paquette de L'Express, Emmanuel Guiton de Libération, Jean-Louis Girgorin qui est resté avec nous, auteur de Cyber, la guerre permanente. Et à vous, Zoé Sfez. Dimanche prochain, je recevrai le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, un tout autre sujet. Dans un instant, vous retrouvez Vincent Charpentier pour Carbone 14, le magazine L'Archéologie. Et j'ai encore le temps de vous signaler que demain matin, c'est Christophe Prochasson qui sera l'invité des matins de France Culture, donc demain matin. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.